Eh bien, nous sommes dans le livre de Josué. Je vais faire une petite halte supplémentaire dans la première partie que nous avons vue. C'est déjà deux fois. Ce sera une troisième fois, mais je vous promets que ce ne sera pas aussi long que les autres fois. Ce que je voudrais dire, c'est que cette introduction au livre de Josué concerne la parole de Dieu et puis les promesses de Dieu qui sont faites à Josué et au peuple. C'est quand on regarde les événements bibliques qui sont rapportés et que l'on voit dans la Bible, quand Dieu a parlé à Adam, il lui a transmis une parole. Il lui a dit de remplir la terre, de l'assujettir et de garder le jardin et de ne pas manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. En fait, la parole de Dieu se résumait en trois thèmes principaux. Bien entendu, nous connaissons bien l'histoire. Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu. C'est quand Dieu a transmis la loi était la parole de Dieu et est toujours la parole de Dieu. Et le peuple devait obéir à la parole de Dieu. C'est à chaque fois que Dieu commence quelque chose, il donne sa parole. Nous avons des directives pour faire ce que nous devons faire. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé son ministère, après le baptême de Jean et son séjour de 40 jours au désert, eh bien, il a transmis la parole de Dieu sous la forme du sermon sur la montagne. Et puis, le ministère du Seigneur Jésus est peuplé de discours et de directions et d'enseignements qu'il a donnés à ses disciples. Et quand les disciples ont commencé, quand l'Église a commencé à la Pentecôte, eh bien, les disciples étaient munis de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que le Seigneur Jésus-Christ avait enseigné pendant 3 ans et demi à ses disciples. Et le peuple suivait l'enseignement des disciples, vous trouvez ça dans les Actes des apôtres. Et puis ensuite, l'Église, eh bien, Dieu a transmis l'enseignement par le moyen des épîtres de Paul. Et de Épître aux Hébreux, Jacques, 1 de Pierre et 1 de 3 Jean, Jude. Vous voyez, à chaque fois, il y a la parole de Dieu. On ne peut pas se détourner de la parole de Dieu. C'est l'enseignement que Dieu donne et que nous devons suivre. La parole de Dieu, ce sont des commandements. C'est comment nous devons nous comporter, ce que nous devons faire dans certaines situations. Mais c'est aussi des promesses. Et voilà, donc vous avez dans ces quelques paroles du chapitre 1 avec 9, vous avez le rappel de la parole de Dieu, qu'il faut se soumettre à la parole de Dieu, qu'il faut la suivre, et il y a des promesses, et Dieu a fait des promesses sur l'étendue du pays, comment le pays dans quel disons, c'était l'étendue de la promesse par rapport au peuple. Et le peuple devait se tenir et obéir à la parole, et il avait le bénéfice des promesses. Voilà, c'est ce que je voulais souligner sur ces 9 versets qui nous parlent de la parole de Dieu. Ensuite, la suite du texte, c'est les versets 10 à 18. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites, à la demi-tribu de Manassé: Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: L'Éternel votre Dieu vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre la possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant: Nous ferons tout ce que nous a ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Et nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse, veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage.
Voilà.
Donc vous avez, c'est comme je vous ai dit, Josué, dans le livre de Josué, on le voit comme un type de Christ parfois, et d'autres fois il n'est pas un type de Christ. Il est le type d'un chrétien, c'est-à-dire de quelqu'un qui marche avec Dieu et qui a des défaillances. Mais dans ces versets 10 à 18, on souligne le type de Christ. C'est-à-dire qu'il il donne ses ordres aux officiers du peuple. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là pour servir d'intermédiaire entre Josué et le peuple. Et ces personnes sont les officiers. Voilà. Donc c'est lui qui donne des ordres. Et en tant que type de Christ, eh bien, et par rapport à nous, eh bien, nous recevons les ordres de Christ. Et c'est vrai qu'il y a des responsables dans l'Église qui sont habilités pour enseigner la parole, qui sont appelés de Dieu pour le faire. Et on pourrait dire que ce sont les officiers qui servent d'intermédiaire et qui servent à transmettre au peuple la direction de Dieu. Et c'est un rôle qui n'est pas sans importance. Nous avons trouvé maintenant on retrouve beaucoup moins, mais dans le passé, il y avait une contestation par rapport aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu dans l'Église, et le rôle du pasteur était remis en question, et j'ai entendu des discours et si on voulait entrer dans la polémique, on n'en finissait pas. C'est le pasteur, c'est pas biblique. J'ai entendu combien de fois je l'ai entendu. Le rôle du pasteur, c'est pas biblique. Je dis alors, comment vous lisez votre Bible? Où est-ce que nous avons la même Bible? Parce que dans ma Bible, il est question de pasteur à plusieurs reprises. Et ne serait-ce que dans l'Épître aux Éphésiens et puis Pierre, hein, il est question des évêques et des pasteurs, qui est le souverain berger qui doit, il faut rendre des comptes, bon, etc. Il ne faut pas dominer sur le peuple. Je vous passe les versets. Mais c'est vrai qu'il y a une forte contestation au sujet des personnes qui sont responsables dans l'Église pour transmettre la parole de Dieu. Alors, c'est vrai qu'on ne doit pas encenser l'homme, l'être humain. C'est Christ qui doit être honoré, qui doit être glorifié. Mais le rôle du pasteur n'est pas un rôle sans importance. Ce n'est pas un rôle qui doit être négligé ou regardé comme rien. Il y a une autorité, il y a une volonté de Dieu, il y a un appel de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de Saül? Saül était un mauvais roi, mais il était loin de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il avait reçu l'huile d'onction de la part de Dieu. Je rappelle une chose, c'est que Saül n'était pas un roi selon la volonté de Dieu, la volonté première de Dieu. Dieu n'avait pas l'intention de donner un roi au peuple à cette époque-là. Il a dit, je vous ai donné un roi dans ma colère, je le retirerai dans ma fureur. Donc, il a cédé à un caprice du peuple et il a donné un roi qui était forcément un mauvais roi. Il ne pouvait pas sortir quelque chose de bon de cela. Mais donc il y avait l'onction divine quand même. Même si c'était un mauvais roi, même si c'était, même, c'était loin de l'Éternel. Et jamais David a touché à un cheveu de cet homme, parce que c'était loin de l'Éternel. Et malheureusement, les responsables dans l'Église sont souvent critiqués, et remis en question, et on parle mal, on parle dans le dos, on dit des choses, mais il y a cette parole de David, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Ce sont les officiers du peuple. Et il faut que dans l'Église, et bien, on prenne conscience qu'il y a des personnes responsables qui doivent et qui sont responsables devant Dieu, mais devant l'Église aussi, pour le travail qu'ils font. Et c'est vrai que toucher à loin de l'Éternel, c'est toujours une grave question. Et on ne peut pas dire que Dieu nous tient pour innocents d'avoir fait quelque chose comme cela. Donc, j'ai ouvert une parenthèse là-dessus. Donc, Josué donna des ordres aux officiers du peuple. C'est le verset 10. Parce que le peuple avait besoin de personnes qui servent d'intermédiaires. Josué ne parlait pas directement au peuple, il a parlé aux officiers. Voilà. Et le commandement qu'il a donné, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Voilà l'ordre qu'il a donné aux officiers du peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain. Tout chrétien, un jour ou l'autre, est appelé à passer le Jourdain. Il y a toujours un Jourdain à passer. Il y a toujours une vie meilleure que celle que nous vivons. La plupart des chrétiens vivent une vie terne et médiocre dans la vie. Leur vie chrétienne est une vie de défaite et de tristesse. Ils sont toujours en train de tourner dans le désert. Et c'est le temps des murmures, des épreuves non nécessaires. Mais un jour, eh bien, il y a ce commandement, préparez-vous des provisions. On ne peut pas dire que la vie chrétienne, je connais des chrétiens qui marchent bien dans leur vie chrétienne, qui font des progrès, qui avancent vraiment. Ces chrétiens-là ont pris des dispositions pour avancer et pour faire des progrès. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Je peux dire une chose, le hasard est un mot bien pratique, mais le hasard n'existe pas. Il n'y a jamais eu de hasard dans aucune situation. Si quelqu'un a un travail dans une haute fonction, je peux vous dire, c'est pas par hasard qu'il l'a. Il a fait des études, il a travaillé, et bon, parfois, c'est ce qu'on appelle le piston, où il a des relations, etc. Mais néanmoins, on ne met pas quelqu'un qui n'a pas fait d'études à un poste de responsabilité, même s'il a des amis bien placés. En général, on donne à quelqu'un qui a les diplômes qu'il faut. Donc, rien n'arrive par hasard. Et quand un chrétien avance et fait des progrès, c'est que il a pris les dispositions pour avancer, pour faire des progrès. On ne marche pas par la foi sans avoir un aliment à la foi. La parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi. D'accord, voilà. La foi c'est une des provisions dont vous avez particulièrement besoin. Mais la foi en quoi et en qui? C'est la foi en Dieu et la foi dans sa parole. Pour avoir la foi en Dieu, il faut connaître Dieu. Il faut marcher avec lui. Il faut avoir pris conscience de qui est Dieu, de sa grandeur, de sa puissance, de son autorité, de sa toute-science. C'est parce que l'on connaît Dieu que l'on a foi en Dieu. On n'a pas une foi comme ça qui est une foi éthérée sur quelqu'un que l'on ne connaît pas. Cette foi-là est une foi insensée. La véritable foi est basée sur ce que nous savons de Dieu. C'est Dieu, c'est notre Dieu, c'est mon Dieu. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, eh bien, nous sommes entrés dans la famille de Dieu. Et là, nous avons commencé à apprendre qui est Dieu. Et à partir de cette connaissance de Dieu, notre foi grandit au fur et à mesure que notre connaissance de Dieu grandit aussi. Et plus nous connaissons Dieu, plus nous savons qui il est et combien il est puissant et combien il est grand et combien il nous aime, et plus notre foi est basée sur Dieu. Ensuite, c'est la parole de Dieu. Le chrétien qui ne lit jamais sa Bible, qui ne prie jamais, qui ne cherche pas la direction de Dieu dans la parole, sera toujours un chrétien faible dans sa foi. Parce que la foi s'appuie sur ce que Dieu a dit. Quand Satan est venu tenter Adam, Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et combien de fois Satan vient nous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Parce que nous sommes dans l'ignorance de la parole de Dieu la plupart du temps. Et Satan peut venir nous dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et puis finalement, on se dit, oui, mais on se pose des questions. Et notre foi est ébranlée. Elle n'est pas solide parce qu'elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Il faut préparer ses provisions. Je peux vous dire que la méthode d'apprendre les versets par cœur est une méthode extraordinaire qui peut bouleverser et changer votre vie. Faire de vous, d'un chrétien médiocre, faire un chrétien militant, combattant et vainqueur. Parce que vous connaissez la parole de Dieu. Vous avez pris suffisamment la parole de Dieu au sérieux, non seulement pour la méditer, mais pour la mémoriser. Et vous dites, Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. Et je m'y attache, je crois vraiment ce qu'il a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce verset est une perle précieuse qu'il faut garder et repasser dans son cœur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est peser ces versets que vous apprenez par cœur. Méditez-les, qu'ils soient l'objet de votre réflexion et placez votre foi, votre confiance. Vous pouvez vous dire, Dieu m'a donné un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Alors, je dois prendre courage et me fortifier en Dieu, dans sa parole, parce que Dieu est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. C'est une grande promesse qui a une étendue immense. Mettez une limite à tout. Je vous mets au défi de mettre une limite à tout. C'est tout ce que tu entreprendras. Autant que tu entreprends, autant Dieu va bénir. C'est une promesse qui engage Dieu, hein. Elle nous engage à nous aussi. Et c'est à partir du moment où on revendique cette promesse, c'est qu'on marche dans sa volonté et on veut faire, oh Dieu, me voici pour faire ta volonté. Et c'est là que Dieu répond à nos prières et qu'il nous exauce, qu'il bénit tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, ce sont des provisions que l'on met en réserve. Parce qu'un jour, nous allons avoir l'ennemi en face de nous. Un jour, quand le Jourdain est passé, eh bien, nous sommes dans le pays de la promesse, mais c'est le pays du combat. C'est le pays où il faut lutter contre l'ennemi de Dieu. Et c'est comme disait Paul, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les puissances célestes. Et ces puissances célestes se combattent avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un officier de l'armée romaine qui... les Romains n'étaient pas de grands navigateurs. Mais un jour, ils ont dû apprendre à combattre les pirates parce que la mer Méditerranée était remplie de pirates. Et les Romains n'étaient pas de bons marins. Alors, je ne sais plus qui, mais a décidé que les Romains seraient de bons marins et qu'ils seraient... Alors, il leur a fait faire des exercices de sauter d'un bateau à l'autre, passer sur des planches, etc., etc. Ce que l'on connaît des pirates et de ceux qui combattent les pirates. Et un jour, un officier romain a sauté sur une galère pirate et un coup de hache lui a coupé la main droite. Il a tenu son épée, il a perdu sa main droite d'un coup. Et cet homme, au lieu de pleurer sur sa main droite perdue, il a combattu avec son bouclier. Et il a écrasé les ennemis à coups de bouclier avec sa main gauche. Il a été tellement valeureux que je crois que c'est Jules César lui a décerné un titre et une propriété parce que la victoire était gagnée à cause de cet homme qui avait perdu sa main droite. C'est le coup de bouclier, ça s'appelle. Et alors, c'est le bouclier de la foi. On combat avec le bouclier de la foi. Je me rappelle, souvent j'ai entendu, on m'a dit, le bouclier de la foi, c'est une arme défensive. Si vous voulez, Mais vous pouvez en faire une arme offensive et remettre l'ennemi à sa place et le repousser à coups de bouclier. Parce que la foi est une arme puissante contre l'ennemi. Et le bouclier de la foi est puissant avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il faut avoir déjà forgé son bouclier et son épée avant de passer le Jourdain et de savoir exactement ce que nous croyons, ce que nous sommes et comment nous pouvons nous conduire et avoir suffisamment la parole de Dieu en mémoire pour que quand l'ennemi vient pour mettre le découragement dans votre cœur, vous réagissez. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le découragement n'est pas pour un chrétien. Un chrétien découragé ne devrait pas exister. Nous avons tellement de promesses. Nous avons un si grand Dieu qui a fait de si grandes choses que nous baisserions la tête et nous nous dirions, eh ben, maintenant c'est assez, Seigneur. C'est un grand homme de Dieu a réagi comme cela. Et pourtant, c'était un homme de foi. C'est Élie. Il a dit, oh, mais, Seigneur, c'est assez maintenant. Regarde, ils ont tué tous tes prophètes, je suis le dernier, etc., etc. Vous connaissez l'histoire. Il a perdu courage parce qu'il a cessé de regarder à Dieu et il a regardé aux hommes. Ils ont tué tous tes prophètes. Mais ils n'ont pas tué Dieu. Tu étais toujours là. Les prophètes pouvaient disparaître, mais Dieu était toujours là. Et personne n'est plus fort que Dieu. C'est donc une bonne question. Il leur a dit, préparez vos provisions. C'est dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Profitez toujours des moments que vous avez pour vous fortifier dans la parole de Dieu, pour la mémoriser, pour l'étudier, pour l'approfondir, pour placer votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Prenez au sérieux la parole de Dieu. Je me rappelle, quand je faisais mes études de théologie, il y avait 2 étudiants qui faisaient des blagues sur la parole de Dieu. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Ils ont disparu. Un a arrêté le ministère très très peu de temps après avoir. Et l'autre, je l'ai perdu de vue. C'était quelque part, une sorte de blasphémateur. Un blasphémateur gentil. Et n'était pas contre la parole de Dieu, mais il trouvait des blagues avec la parole de Dieu. N'acceptez jamais que l'on parle légèrement de la parole de Dieu devant vous. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais avec un frère en Christ et il y a quelqu'un qui a laissé entendre un doute sur la parole de Dieu et il a dit, je ne laisserai pas émettre un doute sur la parole de Dieu en ma présence. Il a remis le frère en Christ qui parlait légèrement de la parole de Dieu. Il a dit, jamais je tolérerai que l'on ne discrimine la parole de Dieu en ma présence. J'étais stupéfait parce que je ne m'attendais pas parce que il est plutôt classé comme un libéral. Mais il a réagi fortement et je lui ai dit, mon frère, tu es en bon chemin, ça va. Tu es en bonne santé spirituelle. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est normalement Adam aurait dû prendre la parole et de dire Dieu a dit et je ne discute pas ce que Dieu a dit. Les gens vous disent, mais c'était justement un théologien, c'est Émile Brunner, je crois, qui avait dit qu'il était difficile de croire à la parole de Dieu à l'heure de l'ampoule électrique. Bon, il avait que l'ampoule électrique, le pauvre. C'est aujourd'hui, les gigaoctets et les trucs et les machins et les trucs qui sont dans voyage dans l'atmosphère. Et bon, mais la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu reste toujours la même. Elle est là. Dieu est toujours le Dieu vivant. Et on doit préparer nos provisions. Parce que nous sommes face à un monde qui conteste la parole de Dieu, qui remet en question l'autorité de la parole de Dieu. Et Satan viendra nous remettre en question la parole de Dieu. Et quand nous sommes dans les épreuves, dans les difficultés, eh bien, ce n'est pas le moment où nous devons dire, ben maintenant, je vais essayer de croire à la parole de Dieu. C'est un peu tard. La parole de Dieu, nous devions la mettre en réserve dans les temps faciles, pour que dans les temps difficiles, elle soit à notre portée et que nous puissions l'utiliser et combattre Satan. Le bouclier de la foi, il se fabrique, il se forge dans le moment où vous n'avez pas autant d'épreuves, où le combat n'est pas aussi rude. Il faut se préparer au combat. Toujours. C'est quelqu'un de sage prépare ses armes pendant la paix. C'est imaginer un soldat qui serait un bon soldat romain qui se dirait ben, je vais me fabriquer mon épée et il a les ennemis en face de lui. Mais c'est une folie. Jamais on agit de cette manière-là. Soit on a une épée et on est un soldat, soit on n'a pas d'épée et on n'est pas un soldat. C'est tout. Et le chrétien doit se préparer à la lutte qu'il a avec l'ennemi. Et on lit la parole de Dieu, on la médite, on l'approfondit, mais il y a une méditation de la parole de Dieu qui est active. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible et qui la méditent d'une manière passive. Mais quand on lit la parole de Dieu, on place sa foi, on exerce sa foi et on dit voilà, Dieu a parlé, il a dit. Voilà ce qu'il a dit. Quel ordre il me donne? Quelle direction je dois prendre? Qu'est-ce que j'apprends dans ce verset par rapport à ma vie chrétienne? Qu'est-ce qui doit changer? Comment je dois me comporter désormais? Dans quelle direction je dois aller? Il y a une méditation active. Il y a des chrétiens qui ne lisent jamais ou pratiquement jamais leur Bible. Il y en a qui la lisent superficiellement. Et rares sont ceux qui la méditent et qui l'approfondissent pour agir. C'est selon tout ce qui t'a été prescrit. C'est ce que nous avons lu hein, dans les premiers versets du chapitre 1. On la médite et on l'approfondit. On met des provisions en réserve pour le jour où on va être dans le combat. Je vous dis, la foi grandit. Elle grandit parce que vous voulez qu'elle grandisse. Mais la foi, quand vous avez une réelle foi, alors Dieu va éprouver votre foi. Il n'y a pas de foi réelle sans épreuve de la foi. C'est quand Dieu voit la foi en nous, alors il nous réserve des épreuves pour que cette foi soit plus pure, soit plus efficace, qu'elle soit basée sur de meilleurs fondements, qu'elle soit plus solide. Il est pur, notre foi. Et ce n'est pas une mauvaise chose que d'être éprouvé et d'avoir des difficultés. Bien sûr, on aimerait bien que ne pas en avoir. Si on avait eu le choix, on aurait dit, Seigneur, je préfère ne pas avoir d'épreuves. Mais c'est l'épreuve de votre foi qui est nécessaire, absolument nécessaire. Donc je ne connais pas de chrétien vivant et efficace qui n'est pas éprouvé. Donc, il y a la préparation des provisions. On prépare ces provisions parce qu'il y a un délai. Il dit, dans 3 jours, vous passerez le Jourdain. Et donc, il y a un moment où on doit aller de l'autre côté et il faut se préparer. Et c'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui est volontaire. Ça ne va pas vous arriver si vous ne vous préparez pas. Vous n'aurez pas d'un coup les provisions. Vous direz, mais c'est magnifique, j'ai une épée et un bouclier et j'ai toute l'armure du chrétien. Tiens, je n'avais pas pensé, mais je l'ai. Ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Alors, dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il vous donne la possession, c'est une promesse. Dieu avait dit que le pays était à Israël, qu'un jour, ils passeraient le Jourdain et que ce pays serait leur possession. Il y avait une promesse. Donc, il dit, préparez vos armes, vos provisions, pour que quand vous allez passer le Jourdain, vous entriez dans le pays de la promesse. C'est-à-dire que vous allez conquérir cette promesse. Parce qu'il y a une promesse. Et les promesses de Dieu, vous les avez dans la parole de Dieu. Vous en avez des multitudes. Hein. Je ne sais plus, quelqu'un les avait comptées et m'avait dit le chiffre. Mais bon, je pense qu'il y a encore d'autres promesses qu'il n'avait pas comptées. Il m'avait dit plusieurs milliers, mais bon, il y a sans doute beaucoup plus que ça, que ce qu'il avait dit. Parce que on trouve des promesses même dans des passages où d'autres n'auraient pas trouvé une promesse. Mais c'est le pays des promesses que vous allez conquérir. Et c'est dans ce pays que vous avez besoin de ses provisions et de ses armes. Et alors, il dit, dans 3 jours, vous allez mettre à l'épreuve vos provisions et vos armes. C'est donc préparez-vous, parce que les promesses de Dieu, on les conquiert. Nous avons les promesses, oui. Et j'ai des promesses de la part de Dieu, comme vous, vous avez des promesses. Vous avez la même Bible que moi, et vous avez les mêmes promesses. Dieu nous a fait des promesses magnifiques. C'est même, il est dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous marchez avec Jésus-Christ, les promesses sont à vous. Mais il faut les conquérir. Il faut se battre pour les avoir. C'est le combat de la foi. Et c'est dans l'Épître aux Hébreux, il est dit, ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses. Il y a une conquête, il y a une bataille pour les promesses. C'est le pays de la promesse n'est pas arrivé tout comme ça, d'un coup. Ils sont entrés dans le pays, ben ils avaient un pays, ah ben voilà, maintenant nous avons un pays. Mais il y avait des ennemis à combattre. Et il fallait mener ce combat. C'est le combat de la foi. Et l'ennemi, vous savez, dès que vous êtes dans le pays de la promesse, il va vous combattre. Satan n'a que de la haine contre nous. Il a bien plus de haine contre Dieu. Mais il a de la haine contre nous. Et c'est un combat contre lui. Combat contre Satan. Combat contre l'incrédulité qui est dans notre cœur. Combat contre notre paresse spirituelle. Combat contre les idées que nous recevons à droite et à gauche. C'est un combat, c'est une lutte. Et c'est une lutte qui combat contre ce que dit la parole de Dieu. Et nous, eh bien, nous entrons dans ce combat. C'est notre responsabilité. C'est la responsabilité de chaque chrétien d'entrer dans le combat et de mener le bon combat de la foi. Et Paul disait, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il avait combattu le combat de la foi. C'est contre l'incrédulité. L'incrédulité de sa génération, comme nous avons à combattre l'incrédulité de notre génération, mais notre propre incrédulité, notre propre paresse, notre propre incrédulité, notre propre tendance à nous maintenir en bas, c'est toujours une lutte et un combat. Le premier combat que l'on mène dans notre vie, dans une journée, eh bien, c'est de poser le pied par terre le matin. Vous savez, il y a une force que l'on appelle la pesanteur. La pesanteur est une force qui nous tire vers le bas. Heureusement, parce que sinon on flotterait quelques mètres au-dessus du sol et ce serait difficile de vivre. Mais c'est une force antagoniste qui nous empêche de faire certaines choses, qui lutte contre notre volonté. Vous montez un escalier, il faut un effort. Vous descendez un escalier, il faut faire un effort pour pas descendre trop vite. Vous faites une chose et il y a un effort. Le moindre geste, parce que il y a une force antagoniste qui lutte contre votre énergie pour tout ce que vous faites. C'est la loi de la pesanteur qui régit notre vie et qui lutte contre nous, mais qui est nécessaire. Et dans notre vie chrétienne, eh bien, il y a aussi cette force d'inertie, cette force de pesanteur qui lutte contre notre énergie, et c'est la foi, eh bien, il faut dire, je veux avoir la foi. Je veux me confier en Dieu. Je veux vivre pour Dieu. Je veux faire ce que Dieu me demande. C'est une lutte, c'est un combat. Parce qu'il y a toujours cette force antagoniste qui est là pour nous tenir vers le bas, nous entraîner au bas, nous empêcher de faire les choses comme il le faut. Et cette force, c'est le monde, c'est la chair, c'est le diable, hein, c'est le nom que vous voudrez donner, mais elle est permise par Dieu, elle est voulue de Dieu, parce que le bon combat de la foi se mène, parce qu'il y a cette force, parce qu'il y a cet ennemi, S'il n'y aurait pas de combat de la foi sans cet ennemi, si Satan n'était pas venu dans le jardin d'Éden pour tenter Adam et Ève, on y serait. Il était nécessaire que cette tentation vienne pour pouvoir triompher. Malheureusement, l'homme est tombé, mais il aurait pu triompher. Et nous, notre vie chrétienne, nous pouvons tomber, mais nous pouvons gagner aussi. Nous pouvons triompher. Et la volonté de Dieu, c'est que l'on triomphe. C'est Dieu nous a tout donné, tout. Il a la promesse. Vous entrez le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Il la donne, mais il faut la prendre. Et rien n'est à nous, vraiment, tant que nous ne l'avons pas saisi, nous ne l'avons pas pris. Nous avons toutes les promesses de Dieu. Vous avez infiniment plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Mais ce qui vous manque, c'est la détermination et de dire, je prends possession de toutes ces choses. Toutes ces promesses sont à moi. Je les saisis, je les garde. Je les repasse dans mon cœur. Je désire conquérir le pays. Cela n'arrivera jamais à votre insu. Que votre volonté soit engagée, sans que vous preniez la décision d'avancer et de prendre possession des choses. C'est pour cela que je vous encourage. La parole de Dieu est absolument nécessaire à votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas dire, oh ben aujourd'hui, je n'ai pas trop envie de lire la Bible, je ne vais pas la lire. Mais non seulement vous devez la lire, mais vous devez la méditer et l'approfondir. Et saisir quelles sont les promesses que Dieu vous a faites. Et c'était, comme je vous rappelle, hein, ce que je vous ai dit au début, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. C'est l'ordre que les officiers du peuple ont donné au peuple. Et dès qu'il y a un pasteur qui enseigne, qui parle, il dit, mettez votre foi, votre confiance dans la parole de Dieu. Faites vos provisions, préparez-vous. Parce qu'il y a un combat. Un jour ou l'autre, Satan va vous attaquer. Soyez prêts. Soyez prêts. Ayez fait les provisions qu'il fallait. Ayez médité et approfondi la parole de Dieu. Avoir pris suffisamment au sérieux ce que Dieu dit pour que le jour où le combat arrive, vous puissiez en sortir vainqueur. Que vous ne soyez pas passivement à écouter ce que Satan a à vous dire et à tomber dans la tentation. Parce que dès que l'on est passif, on est faible et on est prêt à tomber. C'est les chrétiens qui ont triomphé et qui ont gagné les victoires, qui sont allés plus loin que les autres, ce sont ceux qui l'ont voulu. Un jour, ils ont dit, je ne resterai pas dans la médiocrité et si quelqu'un veut être dans la défaite, moi, je ne veux pas être dans la défaite. Si eux veulent marcher de défaite en défaite, moi, je veux marcher de victoire en victoire. Je veux triompher en Christ, marcher comme Dieu veut que je marche. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que l'heure tourne. Mais néanmoins, avec ce que je vous ai dit, vous avez suffisamment de travail.